Un nouveau rendez-vous avec votre émission littéraire, c'est mercredi et c'est Wagon Livre sur le 90.5. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité et de votre attention. Je vous emmène ce soir au cœur du Morvan, aux côtés des personnages du dernier roman de notre invité. Nous avons déjà eu le plaisir de le recevoir devant le micro de Radion pour parler de Clair de Lune à Walpé à la fin de l'an passé. L'auteur était venu alors tout auréolé du prix littéraire du Morvan 2010 qui lui avait été remis à Saulieu. Il est aussi un collaborateur régulier au magazine associatif Vent du Morvan. Et ce soir, il a quitté Poil, où se trouve sa ferme dans le canton de Luzy, dans la Nièvre voisine. Il a quitté aussi ses charolais pour venir nous présenter donc son dernier roman intitulé « La Parisienne ». Bonsoir, cher paysan écrivain. Bonsoir, cher Jean-Charles Cougny.
Bonsoir Yannick, bonsoir Radion et bonsoir à tous les auditeurs.
Jean-Charles, je suis très heureux de te recevoir effectivement une nouvelle fois dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, parce que tu as fait paraître au printemps de cette année 2011 donc ton dernier roman qui a pour titre « La Parisienne ». Et alors, tu mets en scène finalement la rencontre entre deux univers à travers deux personnages, une jeune fille de 19 ans, originaire socialement d'un milieu petit bourgeois ou bourgeois, donc de Parisiens qui ont acquis une maison dans le Morvan. Cette jeune fille se prénomme Louise, elle a 19 ans, elle est plutôt en échec scolaire, un peu en révolte, même très en révolte contre l'autorité paternelle. Et elle va rencontrer, malencontreusement, parce que le point de départ, c'est quand même un agriculteur de 40 ans qui se prénomme Eddy et qui, avec son tracteur, va broyer, sans le vouloir, bien sûr, le blouson de cuir de cette jeune fille. Et c'est le début d'une rencontre originale entre deux mondes qui, initialement, Jean-Charles, ne sont pas faits tellement pour se rencontrer.
Oui, mais je crois que dans la vie, heureusement, il y a des rencontres comme ça. Hein. Je pense que tout n'est pas... Heureusement, dans la vie, il y a le hasard, il y a de très belles rencontres comme ça. Il suffit des fois d'une goutte d'eau et il suffit d'un événement qui peut être un accident, qui peut être une erreur. Et puis finalement, on s'aperçoit que deux gens qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas nés, soi-disant, pour se rencontrer, dont les parcours, dont les vies étaient très différentes, peuvent très bien, à travers leur solitude, trouver des moyens de se comprendre et puis pourquoi pas d'aller beaucoup plus loin. Je crois que c'est ce que je voulais montrer. Et puis c'est vrai aussi que, à travers cette histoire, j'ai aussi voulu raconter un peu l'histoire réactualisée de ma maman qui, elle, avait fui la guerre à Paris en 1940, hein, la débandade, et puis elle a rencontré un petit paysan nivernais. Et puis, ça a été très difficile, évidemment, pour pouvoir épouser celui-ci. Et aujourd'hui, en 2011, eh bien, elle a 58 ans de mariage, 9 enfants, 22 petits-enfants et bientôt 4 arrière-petits-enfants. Vous voyez, donc, d'un petit événement, d'une rencontre, peut naître tout un destin, toute une vie. C'est très important pour moi.
Alors, tu es très attaché quand même aux figures de tes parents, et notamment la figure du père plane toujours un peu.
Ah oui, de toute façon, je crois qu'on ne peut pas y échapper. Hein. Mon père était quelqu'un de très important pour moi, mais de très important aussi localement, même régionalement. Bon, et c'était quelqu'un de très autoritaire. Je crois que dans tous mes romans, on retrouve mon père, on retrouve ma mère. Mais bon, je pense que c'est le cas pour la plupart des écrivains. Je crois qu'on est marqué par son enfance, par les gens qui vous ont fait naître, par la famille dans laquelle on a été élevé. Hein.
Alors justement, la famille, là tu mets en scène deux familles. Donc il y a la famille Morvandel, les Givry, hein, donc un couple d'agriculteurs installés durablement sur cette terre qui ont transmis la gestion de l'exploitation à leur fils Eddy, célibataire. Et puis à côté, il y a une autre famille. C'est cette famille de Parisiens qui roulent en grosse berline allemande, qui ne sont dans le Morvan qu'un mois par année. Et qui, finalement, ont un regard assez dépréciatif, plutôt moqueur, sur les agriculteurs qu'il considère comme, d'ailleurs tu utilises les termes dans le roman, comme des bouseux ou des pecnos, comme le dit la jeune Louise.
Oui, bien, ça, bon, ça c'est une chose que je connais, bon, en particulier puisque mon père était maire de la commune. C'est vrai, je n'ai pas voulu généraliser. Hein. On m'a un peu reproché, dans mes premiers lecteurs, d'avoir une vision des Parisiens. En fait, bon, tous les Parisiens ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai que dans les campagnes, on a certains Parisiens qui viennent avec des a priori, bon, et puis on a aussi des agriculteurs qui ont un a priori sur les Parisiens. Alors, je crois, justement, le but de ce roman, c'était de montrer que ces a priori n'ont pas lieu d'être, hein, qu'il faut quand même regarder un peu plus loin que le bout de son nez, et puis que, finalement, les paysans ne sont pas tous des bouseux, et les Parisiens n'ont pas tous une vision supérieure par rapport aux Morvandiaux.
Il faut quand même admettre que cette jeune fille, Louise, qui arrive dans un tout petit village du Morvan, qui pourrait être le village où tu habites, c'est-à-dire Poil, hein, vraiment au sud de la Nièvre, il est vrai que la jeune Louise arrive avec des cheveux rouges, des piercings dans l'arcade sourcilière et même dans le nez, au point d'ailleurs que les deux anciens, donc les parents de Eddy, le personnage principal, donc cet homme de 40 ans est célibataire, et qui est très attaché à sa terre. Ses parents disent à propos de Louise, l'adolescente, « T'as vu ces anneaux au-dessus des yeux et dans le nez ? On dirait un taureau au concours de Luzi. »
Oui, ben je crois que, bon, il faut regarder le personnage. Je pense que si Louise est comme ça, c'est parce qu'elle cherche quelque chose. Hein. Bon, et puis c'est la mode un peu à Paris, c'est la mode, bon.
Mais elle provoque.
Elle cherche à provoquer, elle cherche quelque chose. De toute façon, elle cherche finalement, bon, on voit que, en continuant le roman, elle va poser tous ses attributs, toutes ces choses-là pour se fondre un peu plus dans le moule. Bon, mais vous savez, moi j'ai eu des enfants, j'en ai eu beaucoup, quand il y a eu aussi quelques piercings aussi. Bon, maintenant, ils en ont plus. Je crois qu'il ne faut pas non plus... je veux dire, quand vous avez des enfants qui ont des expériences, qui tentent des nouvelles coupes de cheveux, des choses comme ça, il ne faut pas non plus s'en offusquer. Plus vous le remarquez, plus les enfants vont l'avoir. Le but, c'est quand même de se démarquer des parents. Moi, je me rappelle, dans les années 70, quand j'ai commencé d'avoir les cheveux sur les oreilles, mon père a fait une comédie, parce que lui, c'était les cheveux avec les garde-boue, il fallait dégager les oreilles. Bon, notre premier acte de bravoure, nous, dans notre génération, c'était les cheveux longs. Bon, maintenant, pour les jeunes, les cheveux longs, bon, ça a été un moment de se raser la tête. Après, ça a été les piercings. Voilà, et puis pour les générations d'après, ça sera peut-être autre chose. Je trouve que, bon, c'est tout à fait normal. Hein. C'est une question de la génération d'après doit se démarquer de la génération d'avant.
Nous marquons un premier intermède avec un choix de notre invité, Jean-Charles Couny. Nous écoutons Betty Mars, Monsieur l'étranger.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Toujours à l'écoute de Radion, Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ce soir en compagnie d'un paysan écrivain, c'est Jean-Charles Couny qui nous présente son dernier roman intitulé La Parisienne. Cher Jean-Charles, tu as tout à l'heure longuement parlé de la jeunesse, de l'adolescence qui a besoin de se passer. Et puis, tu parles de Paris dans ce roman, et tu as cette ironie à l'égard de la vie parisienne, je te cite. « Paris et son bon air pollué, la délicieuse circulation citadine et les joies des embouteillages. Tout ce qui rend les gens de la capitale si détendus, si aimables, si attentifs au sort de leurs prochains et toujours disposés à bavarder avec leurs voisins de palier. » Mais dis-moi Jean-Charles, est-ce que la vie à la campagne, et notamment la vie dans la campagne du Morvan, est-ce que cette vie-là est si idyllique ?
Ben écoutez, moi je vais vous dire une chose. Bon, d'une part, je connais un peu Paris parce que mes grands-parents maternels étaient parisiens. Donc j'ai jamais apprécié la vie à Paris, dans le métro, l'odeur m'a jamais plu, le bruit. Bon, j'ai aussi connu Nevers puisque c'est là que j'ai fait mes études. Et quand je suis arrivé dans le Morvan à 18 ans et que j'ai vu ces gens qui se disaient bonjour, qui se tutoyaient, qui s'appelaient par leur prénom, je crois que la vie est différente. Mon voisin de ferme, il s'appelait Fernand, quand je lui disais monsieur, il me disait, si tu m'appelles encore monsieur, je ne te réponds pas. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je trouve que dans le Morvan, il y a une convivialité. Bon, pour l'étranger qui arrive, peut-être que cela met plus longtemps, mais j'ai trouvé qu'il y a une grande convivialité, une ambiance qui m'a toujours bien davantage plu. Moi, jamais je ne retournerai, même dans la région de Nevers, parce que je trouve que. Moi, j'habitais 2 mois à Nevers quand je me suis marié, puisque ma femme travaillait encore à Nevers. Mais bon, jamais, on ne disait même pas bonjour à son voisin de palier, quoi. Je veux dire, ce qui est complètement aberrant. Je veux dire, vous allez à l'usine, vous allez. Moi, je ne sais pas, à chaque fois que je croise mon voisin, on se dit bonjour, et puis on se tutoie, et puis voilà. Donc, je pense quand même, moi, d'après mon expérience, hein, je ne dis pas que c'est partout pareil. Moi, dans le Morvan, à chaque fois que je croise mon voisin, je parle avec lui, je m'arrête, on discute. Ce qui n'est pas le cas quand on est même dans une ville comme Nevers, ou je ne sais pas Auxerre comment ça se passe, mais où, moi je suis désolé, il y a une ambiance qui est totalement différente.
Tu n'es pas sans savoir que l'année prochaine, en 2012, on va commémorer le centenaire de la naissance d'Henri Vincenot. Tu étais présent à la 4e fête du livre de Saulieu, le 31 juillet dernier précisément, et je dirais que tu as un point commun avec Henri Vincenot. Alors, l'écriture n'est pas la même, les idées et les valeurs, à mon avis, sont sans doute pas les mêmes. Mais, tout comme lui, tu défends un certain art de vivre à la campagne, un attachement à la terre, un attachement aux racines, et non seulement familial, un attachement à la terre nourricière. Est-ce que je peux te demander, Jean-Charles, si tu t'inscris tout de même dans une lignée d'auteurs, certes régionalistes bourguignons, tu te sens investi un petit peu maintenant de cette étiquette d'auteur régionaliste ?
Bah écoutez, je suis très content si on me compare à Vincenot, parce que j'ai lu plusieurs livres de Vincenot, qui était un grand auteur régional. Maintenant, bon, je veux être réaliste aussi. Hein.
Non, parce que lui, il a célébré la Bourgogne de l'élevage aussi.
Maintenant, je me dis un jour, il faudra que je note tous les gens à qui j'ai été comparé, parce que si je lis dans les journaux un coup, moi, comparé à Pagnol, à Giono, enfin bon, des fois, Erckmann, Chatrian, bon, faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Je suis assez lucide quand même. Maintenant, si on me dit que je m'inscris dans la lignée des Vincenot, des Jules Renard, moi, je signe tout de suite, hein, parce que ce sont des gens que j'admire beaucoup, ce sont des gens qui ont représenté leur région, qui ont défendu leur région, qui ont défendu, comme tu le dis, un certain art de vivre, un certain amour de la terre, de la nature. Moi, je ne peux que... Maintenant, je suis sans doute un peu différent, j'ai d'autres valeurs, je vis une autre époque. C'est ça. Hein. Maintenant, si on me dit que je suis un des successeurs ou un des descendants, je suis tout à fait d'accord, je ne demande que ça.
Lorsque tu parles de l'élevage, puisque le héros, le jeune Eddy, 40 ans, bon, célibataire, courageusement, il perpétue le travail de ses parents en élevant effectivement un très beau cheptel, encore qu'ils disent que son exploitation est de taille moyenne par rapport à beaucoup d'autres, tu te mets, ben, quelque part, tu valorises ton propre métier, ta propre activité.
Alors là, bon, ça c'est vrai que je l'ai fait volontairement parce que c'est vrai que bon, notre métier, en particulier notre métier d'éleveur, a été pas mal attaqué ces temps-ci. Bon, en particulier par je le dis toujours, lors du sommet de Copenhague avec les gens qui sont un peu contre la production de viande, soi-disant que la viande. Bon, c'est vrai que La viande, l'élevage bovin contribue à l'effet de serre avec
les
rejets en particulier des rumens des bovins. Mais bon, j'ai voulu montrer quand même ceux qui étaient ce métier, que contrairement à ce qu'on dit, nos bovins ne sont pas bourrés d'antibiotiques, ils ne sont pas élevés dans des feedlots comme on montre sur certains sites, hein, ou comme aux États-Unis, qu'on n'est pas toujours en train de leur remettre des antibiotiques, qu'au prix où ça coûte les antibiotiques, on en met le moins possible. Donc j'ai voulu montrer la beauté du métier, j'ai voulu montrer ce qu'était un vélage, tout ce que ça impliquait, toute la surveillance. Voilà, donc c'est vrai que on n'a pas de but quand on écrit un livre, mais j'ai quand même cherché à montrer la beauté du métier d'éleveur bovin. Au moment où on le décrit, bon, maintenant, moi aussi, je suis lucide. C'est-à-dire que je sais très bien que quand je donne 10 kilos de céréales à un bovin pour faire un kilo de viande, c'est pas à l'avenir, c'est pas quelque chose qui peut durer éternellement. Je veux dire, il faudra certainement à l'avenir revenir un peu sur ce système, soit engraisser des bêtes plus à l'herbe, soit avoir des méthodes plus économiques, parce que si on veut nourrir le monde entier, il faudra certainement revenir à des méthodes beaucoup plus naturelles.
Dans ton roman La Parisienne, Jean-Charles, tu nous offres quelques pages très documentaires sur le vélage. Et je vais te demander de lire le passage, c'est le vélage d'une des vaches. Je vais te demander de lire à partir de ce passage, s'il te plaît.
À 9h, après avoir cassé la croûte, il remarque une vache qui lève la queue dans une case. Il l'observe attentivement. Elle se tortille de l'arrière-train. Elle a des coliques. Il s'en approche doucement. Son pis est gonflé et sa vulve congestionnée laisse écouler un liquide transparent. Elle est sur le point de mettre bas. Il l'isole en la mettant dans un box à vélage. Sans problème, elle a l'habitude. C'est son troisième veau. Elle comprend qu'elle doit passer par là. Elle se couche aussitôt. Elle pousse de toutes ses forces. Au bout d'un moment, comme rien ne sort, Eddie retrousse la manche de sa cotte de travail, enfile un long gant en plastique, le mouille, l'enduit de savon et enfonce le bras à l'intérieur du vagin de l'animal. Il sent un gros veau. Apparemment, il vient les pattes en avant. Donc c'est le bon sens, avec la tête juste au-dessus. Énorme.
Merci Jean-Charles. C'était donc un extrait, notamment l'épisode du vélage. Alors c'est très touchant, parce qu'effectivement, tu montres que Eddie a beaucoup d'humanité. Il a une sorte d'attachement, d'affection à l'égard de ses bêtes. Toi aussi, tu as l'affection à l'égard de tes bêtes ?
De toute façon, moi je le dis toujours, le jour où perdre un veau ne me fera plus rien, j'arrêterai le métier. Parce que, vous voyez, cette année, on a perdu un seul veau, il est né mort. C'est-à-dire, c'est un jumeau qui n'était pas dans le bon sens, donc il n'a même pas vécu. Mais de voir ce veau sans vie, ça me fera toujours quelque chose. Quand j'ai une vache qui part, même un taureau qui est méchant, qui m'a foncé dessus, une vache qui m'a foutu un coup de pied, de toute façon, moi, ça me fera toujours quelque chose. Je veux dire, pour moi, mes vaches, elles ont tout un nom. Je sais le nom de leur père, de leur mère. Moi, je les aime, mes vaches. Quand j'étais un peu plus jeune, il m'arrivait, quand une me donnait un coup de pied, de lui donner un coup de bâton. Maintenant, j'ai vraiment le réflexe, quand une vache me donne un coup, de réfléchir, de me dire pourquoi elle m'a donné un coup de pied. C'est sûrement de ma faute. Voilà, maintenant, je me dis, ces bêtes-là, finalement, on n'a aucune raison, je veux dire, elles nous font vivre. Et puis bon, moi, c'est des bêtes que j'aime. J'aime beaucoup mes vaches. Je sais qu'il faut les vendre pour vivre, mais c'est vraiment le beau côté de mon métier. Moi, être sur un tracteur, être sur mon ordinateur à remplir des fiches, tout ça, c'est pas mon truc. Je le fais, hein. Mais ce qui me plaît, moi, c'est de voir naître un veau. Ce serait vraiment... Ou même voir un veau bien en état, ou le matin, vous voyez, le matin, quand je vais voir mes vaches dans les prés, que je les vois comme en ce moment dans l'herbe, contrairement à ce qui était le cas au printemps, pour moi c'est un bonheur,
Mais vois-tu, Jean-Charles, on ressent cette émotion, cet amour de la bête, ce respect de l'animal quand on te lit.
C'est dans un sens, bon, c'est je suis très content qu'on me le dise, parce que au fond, c'est ce que je veux transmettre aux gens. Je veux montrer que on ne fait pas ça uniquement pour toucher des primes, on ne fait pas ça uniquement pour gagner de l'argent, pour rembourser le crédit école.
Morte saison, l'amour est en rase campagne. Elle est partie, ma paysanne, avant le temps de la moisson. Morte saison, elle a renié mon bout d'Asie. Paraît que l'amour dans les villes a de plus vastes horizons. Morte saison, elle a mis mon cœur en jachère. Elle a pensé que de ma terre ne sortirait plus rien de bon. Ne sortirait plus rien de bon. Morte saison, pas même un épi d'amour tremble. Plus un soupçon de pouce tendre qui dorme au creux de mes sillons. Morne saison, elle a mis mon cœur en jachère. Elle m'a dit qu'il pourrait se faire, qu'elle l'ensème un jour pour de bon. Si là-bas, ça ne tournait rond. En quelle saison? Ne faudrait pas trop que ça tarde. À force tant, plus grande garde. Plus sans épines, les chardons. En quelle saison reviendra-t-elle ma paysanne? En l'attendant, pleure la campagne, il n'y a pas eu de moisson. Il n'y aura plus de moisson.
Morte saison, par Georges Chelon. Wagon Livre reçoit ce soir Jean-Charles Cougny pour nous parler de La Parisienne, roman qui nous plonge dans l'univers d'un paysan morvandiau, éleveur de charolais.
Alors elles ont des prénoms, elles peuvent s'appeler Boréal, Équateur, Courageuse. Louise d'ailleurs, donc l'adolescente de 19 ans, un peu punk avec ses piercings, elle va baptiser une vache du nom de Fitus, ce qui ne plaît d'ailleurs pas tellement à Eddie. Ces noms de vaches, alors là, ils existent véritablement.
C'est assez marrant parce que j'ai écrit ce livre en 2009, donc 2009, oui. Et 2010, c'était l'année des F. Et en 2011, j'ai acheté un veau chez un de mes voisins et il s'appelle Ficus. Donc j'ai un taureau qui s'appelle Ficus. L'intérêt de donner des noms, bon, comme je l'explique, c'est un intérêt mnémotechnique. C'est-à-dire, on donne un nom qui rappelle le nom de la mère, ça permet de savoir quel veau est le veau de quelle vache, quoi.
Donc c'est pour la traçabilité.
Bah disons que c'est une aide mnémotechnique, hein. Bon, parce que la traçabilité, on a des numéros. Chaque veau à la naissance a des étiquettes avec un numéro. C'est enregistré sur ordinateur, donc on retrouve. Mais c'est pour... moi, j'aime bien qu'elles aient des noms et me rappeler du nom des bêtes.
Le veau qui vient de naître est enregistré quasiment dans l'heure.
Ben, c'est-à-dire que normalement, on a 7 jours pour l'enregistrer. Mais moi, il est enregistré tous les soirs, enfin, quand je suis là. Mais comme je suis là pratiquement tous les soirs...
Alors Jean-Charles, je vais te demander de nous cultiver un peu et de nous expliquer ce qu'est un broutard et de nous dire ce qu'est une laitonne.
Ben, un broutard, c'est un veau sevré, c'est-à-dire nos veaux à nous naissent entre fin décembre et début avril. Et quand on les enlève du pied de leur mère au mois de septembre-octobre, ce sont des broutards, ce sont des veaux. Alors soit ils partent au mois de septembre-octobre, ils font autour de 300 kilos. Alors, broutard léger, donc ils font 300 kilos. Et puis, si on les garde un peu, qu'on leur donne un peu de farine, au mois de janvier, ils peuvent faire 500 kilos. Et les laitonnes, c'est la même chose, simplement, comme c'est les femelles. Voilà, donc laitonnes. Alors, il y a les laitonnes qu'on garde pour faire des vaches, et puis les laitonnes qu'on vend parce qu'elles ne sont pas assez bonnes, il faut trier.
Il est question, dans ton roman, parfois, d'une vache qui peut ne pas être maternelle, c'est-à-dire une vache qui peut rejeter son veau parce que, par exemple, le veau est né par césarienne. Alors, il y a des remèdes.
Oui, oh, bah, il y a des remèdes, hein, alors, il y a.
Alors, les bons trucs de Jean-Charles Cougny.
Non, mais il y a des bons remèdes. Bon, il y a des remèdes un peu de grand-mère. Bon, on met des fois un peu de lait de la vache sur le veau. Bon, il y a une bombe aromatique. Aromatique. Bon, il y a aussi, il y a chez nous un gars qui fait une prière, qui fait prendre le veau. Mais enfin, bon, généralement, si on ne crie pas après la mère, si, bon. L'avantage d'avoir les vaches en liberté, en particulier dans les stabulations libres, c'est que la vache, on la met dans une case avec le veau. En général, elle ressent un peu son odeur. Il y a quand même 90% de chance. Et puis bon, c'est pareil. Hein, il faut. Si une vache n'est pas maternelle, on est obligé de l'éliminer. Donc les souches, je veux dire, c'est une qualité qui se transmet de mère à mère, hein, souvent.
Ton roman, La Parisienne, Jean-Charles, offre une vision du Morvan et quelque part aussi une défense et illustration de l'identité morvandelle. Tu écris, alors c'est peut-être aussi ton narrateur qui dit « Avec les Morvandiaux, le premier contact est dur, hostile. »
Oui, ben ça de toute façon c'est sûr que le Morvandiaux a toujours été un peu hostile face à l'étranger, face à la personne qui vient de... D'ailleurs, mais bon, ça c'est souvent chez le paysan, mais chez le Morvandiaux en particulier. Le premier abord, et le paysan est méfiant, quoi, le Morvandiaux. Mais bon, une fois que... Moi, je le sais, puisqu'on est arrivé de Magnicourt, donc de la plaine, en 75. Au début, on a eu un peu de mal à se faire accepter. Mais bon, comme on a vu qu'on n'était pas des mauvais gars, je veux dire, bon... Mais c'est vrai que le Morvandiaux est... Et Corneille, dans son dernier livre, le raconte aussi. Hein, le Morvandiaux est assez hostile au départ. Il est méfiant. C'est une des caractéristiques du Morvandiaux. Moi, ça ne veut pas dire que tous les Morvandiaux le sont.
Alors, ton roman est aussi une présentation de l'agriculture moderne. Et tu soulignes, à travers les occupations de ton héros, hein, donc Eddy, ce paysan de 40 ans, célibataire, qui va rencontrer donc cette Parisienne un peu punk, Louise, 19 ans. Mais on ne va pas trop raconter le fond du roman, il faut laisser, je crois, les auditrices et auditeurs le découvrir par eux-mêmes. Mais notre Eddy, cet agriculteur, est contraint à beaucoup de tracasseries administratives, beaucoup de paperasse, et tu le dis toi-même, tu le disais d'ailleurs il y a quelques minutes, Jean-Charles, l'univers de l'éleveur, c'est aussi maintenant quand même du temps passé dans des déclarations par informatique, des papiers. C'est incontournable.
De toute façon, bon, il ne faut pas non plus faire du populisme, hein, parce que bon, il est certain que l'agriculture, comme on la vit à l'heure actuelle, vit beaucoup des subventions. Donc, on ne peut pas non plus avoir des subventions sans non plus avoir des justificatifs, des engagements. Maintenant, c'est vrai que la chose est certaine, qu'on nous demande 50 fois la même chose, qu'au niveau, par exemple, de la traçabilité des bovins, on nous a, depuis l'histoire de la vache folle, on nous avait fait une traçabilité, en particulier déclarer les veaux dans les 7 jours, mais on ne vend pas nos veaux plus chers, vous comprenez? C'est là le problème, c'est qu'on nous a fait faire quand même beaucoup de choses, beaucoup de papiers, beaucoup de traçabilité, on a amélioré beaucoup les choses. À chaque fois qu'on prend un médicament, il faut une ordonnance, alors qu'avant, on faisait ça comme on voulait. Mais je veux dire, il faudrait quand même qu'il y ait une reconnaissance de ce travail aussi. Et ce n'est pas normal que le travail qui est apporté au niveau sécurité alimentaire en particulier, ce soit uniquement les Leclerc et autres Auchan qui en profitent en vendant la viande plus chère.
We'll be right back. Dans ton roman, La Parisienne, Jean-Charles, on voit bien, et tu le dépeins et tu le décris, on voit bien que le monde agricole est confronté à de grosses difficultés financières. C'est le cas du beau-frère d'Eddy, la Patrick Lavet, bon, qui est un peu le personnage presque diabolique du roman. Le mauvais paysan qui soigne mal ses bêtes, qui fait des mauvais choix économiques, des mauvais choix financiers aussi. Mais à travers lui, tu montres aussi la réalité d'un monde agricole qui souffre énormément. On a souvent mis en avant les suicides de certaines catégories professionnelles, alors que le monde paysan est particulièrement déprimé.
C'est vrai que dans ce roman, j'ai été un peu...
Un peu militant, non, je trouve, Jean-Charles.
Disons que j'ai été un peu plus manichéen que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, dans mes précédents romans, il n'y avait pas le bien et le mal comme ça. Là, c'est vrai que j'ai été... L'éditeur à qui j'avais présenté ce livre, qui m'avait édité deux autres livres, n'a pas voulu le prendre en me disant que c'était un peu caricatural.
Les éditions de Boré.
C'est vrai que là, je présente deux paysans, donc Eddy et son beau-frère, et on voit vraiment qu'il y en a un qui travaille bien et puis l'autre qui travaille. Bon, c'est vrai que je l'ai fait volontairement parce que justement je pensais que chez cet éditeur-là ils aimaient bien justement les personnages bien typés, et après ils me l'ont reproché peut-être parce qu'ils ne voulaient pas l'éditer. Mais bon, ce que j'ai voulu montrer, bon, je n'ai pas voulu montrer, disons que, bon, c'est-à-dire militant, c'est beaucoup dire. Je pense que dans l'agriculture, effectivement, à l'heure actuelle, avec ce système de primes, les primes ont fait que certaines personnes ont gagné beaucoup d'argent pendant un moment et ont peut-être arrêté de travailler ou arrêté de réfléchir à la valeur de l'argent et se sont mis à s'agrandir, à acheter du matériel pour des raisons, pour une autre, hein, pour des raisons de défiscalisation, pour payer moins de charges sociales. Et ce qui fait qu'ils ont été complètement débordés par leur travail et qu'ils ne maîtrisent plus tout leur système, ce qui n'est pas le cas d'Eddy. Donc, et on le voit actuellement, parce que moi je sais qu'avec mon frère, on est exploitant sur une petite surface, en 7 hectares à deux, et on s'en tire pas mal, alors que j'ai des exploitants voisins qui, sur 250-300 hectares à un, sont complètement débordés, n'ont plus aucune trésorerie, ont des dettes phénoménales. Donc j'ai voulu montrer qu'il fallait qu'on revienne à des choses raisonnables, qu'il ne fallait pas toujours écouter les financiers, les comptables, et qu'il fallait surtout rester, je veux dire, au contact des animaux. On le voit bien, mon fameux beau-frère, là, il n'est pas mauvais gars, mais c'est bête, il s'en fout, quoi. Je veux dire, ce qui compte, c'est d'avoir de la terre, d'avoir du gros matériel, d'avoir un gros 4x4. Dire bon, c'est ça, c'est pas le métier d'agriculteur.
Tu te défoules un peu, hein, sur les propriétaires de 4x4.
Mais parce que, à mon avis, moi, un gars qui a un gros 4x4 et puis que ses bêtes crèvent de faim, j'ai honte pour lui, c'est tout. Moi, je connais quelqu'un, un de mes voisins, qui peut plus nourrir ses veaux et puis qui vient d'acheter une super voiture allemande. Bon, ben ça, non, ça, pour moi, c'est un gars, il aime pas ses bêtes, c'est pas un agriculteur. Je suis désolé.
Ton roman La Parisienne, Jean-Charles, pose aussi le problème de l'avenir de l'agriculture. Parce que Louise, 19 ans, qui tout d'un coup, la punk, qui est en conflit avec ses parents, et notamment avec son père, tout d'un coup, elle se découvre un véritable amour pour le métier de paysan. Métier que son père, parisien, cadre supérieur, voit comme un métier de gagne-misère. Il lui dit, il paraît que la moitié des agriculteurs français seraient en faillite. Et un peu plus loin, il dit à sa fille, pour la décourager de devenir agricultrice dans le Morvan, il ajoute « L'essentiel du revenu des agriculteurs provient des primes que l'Europe verse. » Ça, c'est une vérité. Mais la question que je te pose, Jean-Charles, est-ce que je sais qu'au sein de ta famille, tes enfants ne reprendront pas la ferme Kouni, peut-être tes neveux, mais est-ce que autour de toi, tu connais des jeunes gens qui ont vraiment la motivation, l'enthousiasme, le désir de gérer dans 10 ans, dans 15 ans, une exploitation agricole dans le Morvan?
Heureusement. Hein. De toute façon, bon, moi ce que je me dis, c'est que mon père disait toujours, vous serez toujours couvert de dettes, vous n'arriverez jamais à vous en sortir. Bon, on s'en est sorti. Bon, je veux dire, s'il ne faut pas non plus... Là, je fais parler quand même le Parisien. Hein. Le Parisien est très pessimiste. Je crois que si Eddy raisonnait comme ça, il aurait arrêté aussi. Hein. Bon, je crois qu'il ne faut pas non plus être pessimiste. Si vous écoutez, de toute façon, il n'y a plus rien de rentable. Les hôpitaux sont plus rentables, les postes sont plus rentables. Bon, il n'y a plus rien qui est rentable. Le chemin de fer est plus rentable, l'avion non plus. Enfin bon, il n'y a plus rien de rentable, sauf les placements en action. Alors bon, heureusement, il faut qu'il y ait quand même des gens qui travaillent et puis qui nourrissent la planète. Hein. Alors bon, je crois que le raisonnement de notre Parisien, il est pas mal. Mais bon, sa fille, elle aime ce métier. Elle est courageuse et puis on... Et puis bon, elle va s'en sortir hein, de toute façon, puisque je pense que moi j'ai toujours dit à mes enfants, l'essentiel, bon bien sûr je veux que vous nourrissiez votre famille, mais c'est que vous fassiez un métier qui vous plaît. Et puis je crois que quand on a déjà un métier qui plaît, qui motive, et puis qu'on est courageux, bon je dis pas qu'on s'en sort, tout le monde va s'en sortir, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de boulot de fait.
Enfin, il faut espérer aussi que l'on puisse faire le métier que l'on aime en restant près de sa famille, en conservant ses racines, en restant sur le territoire auquel on est attaché. Et c'est loin d'être facile. Alors, tu parles par exemple de la grande foire d'Autun le 1er mars. Hein? Tu peux nous en dire un petit peu plus?
La grande foire, il y a une grande foire au 1er mars, au 1er septembre.
Hein, la Saint-Ladre, donc la foire de la Saint-Ladre.
C'est une grande foire qui est très connue. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu situer un peu. Moi, j'aime bien situer un peu, mais... Mes romans, bon, je parle un peu plus de Château-Chinon, c'est pareil parce que j'étais souvent un peu loin de Château-Chinon et puis que j'ai pas mal d'amis là-bas. Mais bon, la grande foire de... Je sais que dans le canton de Luzy, il y a peu de gens qui loupent la foire du 1er mars à Autun. Hein. Et puis surtout, c'est la première grande sortie après les vélages. C'est, pour les gens, c'est... Bon, ils n'achètent rien. Il y a des marchands de louches ou de brocantes, des machins, enfin, qui n'ont aucune valeur, mais bon, les gens, ils y vont quand même, hein, c'est un événement.
Alors, puisque j'ai la chance de t'avoir devant le micro de Radion, j'aimerais que tu nous parles un peu, Jean-Charles, puisque tu en fais mention dans ton roman La Parisienne, tu parles du marché au cadran de Moulins-en-Gilbert.
Le marché au cadran, c'est un marché qui se fait aux enchères, mais avec des boîtes électroniques. Alors ça, c'est pareil, quand ça a été lancé, tout le monde disait ça ne marchera pas. Et puis c'est un des plus grands marchés de France. Donc on met les bêtes dans un ring et il y a une quarantaine, cinquantaine de marchands de bestiaux qui font des enchères. Donc les gens qui habitent pas trop loin, qui peuvent amener les bêtes, pour eux c'est un marché. Et puis surtout, ça donne une tendance, ça donne une cote. Et puis bon, ça concurrence un peu les groupements, les marchands de bestiaux. C'est une chose qui marche pas mal et qui a été faite par les éleveurs au départ et puis avec l'appui des collectivités.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudrait de temps. Pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce neige désert, où vous vous entêtez à jeter des villages, je vous répéterai vos parlez et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, voix tant écoutée, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur les perrons des portes et de chaque côté des cléons des clôtures. Je vous entends chanter dans la demi-saison votre trop court été et votre hiver si longue. Je vous entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de bois, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoir et de récolte, d'amour et du voisin qui va marier sa fille. Voix noire, voix durcie, écorce et de cordage, voix des pays pleins champs, et voix des amours douces, voix attendries, des amours de village, voix des bouseurs anciens, dont on s'ennuie en ville, filleuil et d'école, et palabres et sparages, magasin général, et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e? Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme baril de poudre, je vous entends grandir comme grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radionne, au cœur de la Bourgogne.
Les gens de mon pays, paroles et musique du Québécois Gilles Vigneault et interprétée par Pauline Julien. La suite de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. Ce soir, devant notre micro, nous accueillons Jean-Charles Couny qui vient nous présenter son dernier roman, La Parisienne.
Alors, tu t'es fait un petit peu pardonner auprès des lectrices et des lecteurs qui t'avaient reproché dans Un retour de trop en Morvan. Tu avais imaginé un Morvan un peu sombre, déprimé et déprimant. Et finalement, on ne va pas trop raconter la fin de La Parisienne, mais à la fin de La Parisienne, on est 30 ans plus tard, donc en 2042, et là, tu imagines, eh bien, justement, des exploitations agricoles qui ont su gérer les difficultés financières, qui gèrent aussi écologiquement les ressources naturelles. Alors, un Jean-Charles Couny, optimiste, il faut en profiter, alors.
Je me suis fait un petit peu violence, là, parce que c'est vrai que je suis d'un naturel assez pessimiste, je le reconnais. Mais bon, je reconnais aussi que je me suis souvent trompé, parce que souvent, je dis, ah ben oui, je croyais pas que ça ferait ça. Et puis, c'est vrai que même quand je me suis lancé dans l'écriture, quand je me suis lancé dans la culture, je ne pensais pas arriver à... Mais bon, voilà, il faut de temps en temps remonter un peu le moral aux gens. Et puis bon, c'est vrai aussi que quand on réfléchit... Moi, je me rappelle dans les années 70, on nous disait en 2010, il n'y aura plus de pétrole. On nous disait, quand il y a eu la vache folle, on nous disait, il y aura des millions de gens qui vont mourir de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bon, on se rappelle de la grippe mexicaine, de la grippe aviaire. Bon, attention, hein, je ne dis pas que tout va bien. Je ne dis pas... Bon, le réchauffement, c'est pareil. Hein, aujourd'hui, il fait beau, mais bon, il y a 3 mois, on nous disait, il ne pleuvra pas avant le mois d'octobre. Bon, voilà, et puis on a eu 130 litres, les prés sont verts. Bon... heureusement, vous savez, je crois qu'à l'heure actuelle, on le voit un peu à la télévision, dans les journaux, il y a une exploitation du catastrophisme pour faire monter l'audimat. Et je trouve que, on dit qu'il y a des gens qui se suicident, des choses comme ça, mais moi je me dis, quand les gamins entendent ce qu'on leur dit, mais ils n'ont pas du tout envie d'aller bosser ou de faire quelque chose. Je veux dire, si on leur dit, de toute façon, dans 30 ans, il fera 50 degrés tous les jours, vous n'aurez plus de pétrole, le gamin, il a qu'à se suicider ou se droguer. Non, mais je veux dire, non, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Et bon, rien ne s'est passé comme on le disait. Hein. Qui imaginerait aujourd'hui que c'est la Chine qui finance les États-Unis? Hein, bon, je veux dire, attention les prévisionnistes, restons modestes. Les prophètes, on en a vu passer. Voilà, et alors donc... Tant qu'à imaginer l'avenir, eh ben, soyons optimistes.
Jean-Charles, on arrive presque au terme de notre entretien. Je vais te poser une question qui va peut-être te mettre un petit peu mal à l'aise. Est-ce que tu ne représentes pas maintenant, c'est ton septième roman, La Parisienne, est-ce que tu n'incarnes pas, un monde agricole moderne et ouvert, notamment un des personnages dans La Parisienne, donc c'est Stéphane qui est un agriculteur installé à Arnel-Duc, ouais. Il est paxé avec un homme, il y a une punk, est-ce que tu incarnes une certaine modernité en Morvan?
Bah, de toute façon, tout le monde sait très bien que je fais partie d'un syndicat ouvert qui s'appelle la Confédération Paysanne. C'est pas, je ne fais pas de prosélytisme ici. Hein. Nous, notre syndicat, c'est un syndicat qui est ouvert sur le monde, hein, qui ne s'occupe pas uniquement de paysans, qui ne défend pas le paysan pour le paysan, qui regarde aussi ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Palestine, et puis voilà, qui se passe aussi au niveau du consommateur. Donc je suis ouvert sur tout. Hein. De toute façon, moi je crois qu'il faut évoluer, il ne faut pas rester toujours en arrière. Et puis bon... Ce que je reproche des fois à ce syndicat, c'est des fois d'évoluer plus vite, parce qu'on a défendu souvent certaines énergies renouvelables, et puis dès qu'elles sont lancées, on est déjà un peu contre. Donc, je veux dire, quand on parle, par exemple, du compost, ou, enfin pas du compost, de la méthanisation, bon, tout le monde était pour au début, maintenant on nous dit qu'on est contre, les biocarburants, on est contre, donc des fois on va un peu trop vite. Mais bon, moi je suis contre tous les corporatismes. Hein, quand je crois que il faut que le paysan, chez nous, il faut quand même raisonner globalement, je veux dire. Hein. Il faut penser local et raisonner global, comme on dit.
Alors, un tout petit mot sur ton activité de rédacteur à Vendu Morvan.
Oh ben, je continue à Vendu Morvan. Hein, de toute façon, là, j'ai déjà fait 3 articles pour le prochain. Et puis, de toute façon, moi, c'est un plaisir. Bon, je fais des petits reportages. J'aime bien faire des choses très différentes. Là, j'ai fait dans le prochain, j'ai fait un article qui va sur une association hollandaise qui essaie de réinsérer des jeunes en difficulté en Hollande en leur trouvant des parrains dans le Morvan, dans l'agriculture. J'ai fait un article sur un copain bouquiniste qui est là, qui fait tous les sens là avec moi. Bon, on m'a demandé, je veux faire aussi un article, un petit billet sur un dicton qui s'appelle année de foin, année de rien, parce que cette année il n'y avait pas de foin. Et je démontre un peu que finalement la première conséquence de l'agriculture moderne, c'est la disparition de ce dicton, parce qu'à l'heure actuelle, c'est les années de foin qui sont les bonnes années. Voilà.
Et j'enchaîne alors, prochain roman, 2013.
Alors bon, l'année prochaine, j'ai dit que je prenais une petite année sabbatique parce que bon, j'ai une maison, je vais avoir un quatrième petit enfant, donc je voudrais profiter. Et puis, c'est vrai que faire des salons, 10 à 15 salons tous les ans, c'est prenant. Et puis, je voudrais prendre un peu de recul. Et puis là, je suis en train de travailler sur un autre roman. Bon, alors on m'a dit qu'il y en avait un petit peu marre de mon agriculture. Alors là, comme j'étais un petit peu dans le rugby dans ma jeunesse, il y aura un petit peu de rugby, mais bon, ça se passera toujours en Bourgogne. Et puis, j'espère que ça intéressera mes lecteurs.
En tout cas, Jean-Charles, merci à toi. Jean-Charles Couni, donc, dont on rappelle le titre du dernier roman, La Parisienne. Et puis, on peut toujours se procurer Claire de Lune à Walpé, qui a obtenu en 2010 le prix littéraire Henri Perruchot du Morvan, prix littéraire du Morvan. Alors, roman beaucoup plus loufoque par rapport à La Parisienne, qui est vraiment la rencontre entre une jeune Parisienne de 19 ans et un célibataire agriculteur morvandiau de 40 ans. Et tout est possible, et la preuve, tout est possible. Merci Jean-Charles.
Je rappelle le titre du roman de Jean-Charles Couny, La Parisienne, disponible en librairie ou sur le site internet de notre invité sur le www.jeancharlescouny.com. À la fin de ce mois d'octobre, très précisément le dimanche 30 octobre prochain, se tiendra à Moneto Festilivre. On aura l'occasion vraisemblablement de vous fournir un petit peu plus d'informations dans les semaines à venir, notamment sur l'antenne de Radion. Mercredi prochain, nous recevrons le maire d'Auxerre et vice-président du conseil régional de Bourgogne. Guy Ferrez sera effectivement devant nos micros et il évoquera son enfance dans les quartiers d'Auxerre, notamment au Rozoir, ses passions pour la littérature et pour l'histoire, sans oublier de revenir sur son parcours de militant socialiste et bien évidemment sur son élection à la mairie d'Auxerre en 2001, il y a maintenant 10 ans. Et également sa réélection dès le premier tour en 2008. C'est mercredi 19 octobre prochain à 21h dans Wagon Livre sur votre radio locale. Ce sera l'occasion de mettre en valeur un beau livre d'entretien que Guy Ferrez a accordé au journaliste Pierre Julguet, un ouvrage intitulé « Auxerre, une passion » et paru aux éditions de Bourgogne. Excellente soirée et bonne nuit à l'écoute des programmes de Radion. Merci de votre fidélité. Au revoir et à mercredi prochain. Thank you.